Alter Ego, bonjour. Toutes les femmes qui ont un jour porté un enfant savent ce que c'est qu'une présence en soi, un mouvement, une ondulation physique, au moins tout autant qu'une promesse, qu'un avenir et qu'une joie. La législation, elle, est faite plutôt par des hommes, même si les choses, bien sûr, sont en train d'évoluer. C'est peut-être, mais peut-être seulement pour cela, qu'un bébé n'existe pas aux yeux de la loi. Entre 3 mois, jusque-là, il est considéré comme un embryon, et 5 mois et demi de grossesse, date à laquelle il devient une personne, avec un nom, une identité, par conséquent une sépulture s'il perd la vie. Perdre un enfant en cours de grossesse constitue évidemment un drame en soi, mais quand le chagrin de ne pas pouvoir l'enterrer dignement et de constater qu'on assimile son petit à un déchet humain comme un simple organe qu'on vous retire, eh bien quand cela arrive, cela devient littéralement insupportable. Deux femmes ont accepté ce matin de témoigner dans Alter Ego, Sylvia Tabet et Christine Sagnier, qui toutes les deux ont été confrontées à cette absurdité. Toutes les deux aussi ont écrit un livre pour raconter leur histoire et celle de leur bébé. Celui de Sylvia Tabet est intitulé « Je n'ai pas vu tes yeux » et celui de Christine Sagnier « Un ange est passé ». Si vous souhaitez intervenir dans l'émission, vous disposez du téléphone 01 45 24 7000 comme d'habitude ou bien d'internet franceinter.com, rubrique Alter Ego.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente. Je demeure. Passe les jours et passe les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
Sagnier et Sylvia Tabet, bonjour à toutes les deux. Pour qu'on comprenne un petit peu ce qui vous est arrivé, ce serait bien que je vous laisse le soin de le raconter. Sylvia Tabet, vous voulez bien commencer?
Bien sûr, bonjour.
Bonjour, votre histoire est celle du petit David.
Oui, j'attendais mon petit David, mon premier enfant.
Mm-hmm. C'était il y a combien de temps?
C'était il y a 11 ans maintenant. Ouais. Et au bout de presque 7 mois de grossesse, j'apprends au cours d'une échographie que rien ne va plus. Et là, je tombe des nues. Mm. Ensuite, se pose la question d'effectuer des examens plus poussés.
Quand vous dites que rien ne va plus, c'est-à-dire on détecte des anomalies importantes?
Oui, très importantes, partout. Mmh. Et là, c'est un coup de massue colossal. Et on me propose d'essayer d'effectuer des examens poussés. ce que je finis par refuser, influencée par les médecins et mon mari, qui était médecin lui aussi.
Ouais.
Et donc j'accouche 4 jours plus tard de David, que je n'ai pas vu.
Alors quand vous dites j'accouche de David, c'est-à-dire que David était mort?
En fait, je l'ai tué en, enfin, en prenant le RU 486.
Vous dites je l'ai tué, c'est très très dur parce que vous portez, j'imagine, une culpabilité.
Qui est double en fait, oui. Qui est celle d'avoir, de n'avoir pas su faire un enfant qui pourrait se porter bien, et puis celle d'interrompre la grossesse, même si l'enfant n'aurait pas été viable.
Et ce qui vous reste 11 ans après, en dehors évidemment du deuil et du fait d'avoir perdu un enfant, c'est précisément de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir serré dans vos bras, de ne pas l'avoir enterré.
Bien sûr, d'avoir en fait voulu échapper. J'ai cru pouvoir faire le deuil plus rapidement, en évitant de le voir. Par ailleurs, je n'avais pas le droit de l'enterrer à l'époque. Donc l'hôpital ne m'a rien proposé de particulier.
Ouais.
J'avais le droit de le voir. Mais au-delà, non, ni enterrement, ni acte civil, rien.
Christine Sagnier, vous, c'est un petit Mathieu que vous attendiez?
Oui, tout à fait, il y a 10 ans, presque exactement en fait, puisque c'était le 1er juin. Et tout allait bien, on avait fait une échographie 3 jours avant, et puis tout d'un coup, le bébé ne bougeait plus. Alors certains disent qu'en fin de grossesse, comme il y a moins de place dans le ventre, les bébés ne bougent plus, mais ce qui apparemment n'est pas du tout le cas, enfin il ne faut pas tellement croire ça. Et donc j'ai laissé un petit peu passer le temps, un jour, deux jours.
Et vous aviez senti quelque chose, enfin que c'était
pas normal?
Oui,
ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était un bébé qui bougeait beaucoup, et justement j'étais toujours à l'écoute de ses mouvements. Et là, j'ai essayé de le secouer, de boire du café, essayer de le réveiller. Et puis, bon, finalement, on est allé à l'hôpital, mais sans trop s'inquiéter. On ne voulait pas gêner, en fait, les gens de l'hôpital, je crois aussi.
Et vous ne vouliez toujours pas gêner?
Oui, parce que d'une certaine manière, je ne pouvais pas imaginer non plus qu'il soit mort.
Ouais,
enfin, on a
ouais.
quelque chose, dans le coin de la tête, mais pas plus, quoi. Ouais. Enfin, c'est inimaginable.
C'est l'impensable qui arrive, écrivez-vous.
Oui, c'est vraiment ça, oui. Et quand l'interne a vu que les choses n'étaient pas comme elles devaient être, il a tout de suite appelé le médecin de garde. Et puis là, tout s'est enchaîné. Et là, on savait, il ne nous avait rien dit, mais c'est vrai qu'on a tout de suite compris, quoi. Et en fait, donc, j'ai dû accoucher immédiatement. Enfin, donc, l'accouchement a été déclenché. Et c'était, j'avais l'impression d'être, c'était plus moi qui était là en fait. Je pense que j'ai fait toutes les choses, j'étais consciente de tout, vraiment tout. Mais c'était vraiment une autre personne, enfin il y a un phénomène de dédoublement. Et après par contre j'ai voulu voir le bébé, ça a été très difficile parce qu'on a hésité, enfin mon mari ne savait pas. Moi j'avais déjà vécu un deuil et j'avais beaucoup regretté de ne pas avoir vu en fait la personne morte. Donc je m'étais dit qu'il fallait le voir vraiment. Et à la fois c'est très étrange parce qu'on a toujours, enfin je crois qu'on a toujours peur d'avoir fait un monstre. On est de toute façon en plein dans la culpabilité parce qu'on ne comprend pas pourquoi soi-même on n'a pas réussi à faire un bébé alors que tant de femmes réussissent et que la grossesse paraît être quelque chose de si beau, si simple. Et donc, je l'ai porté donc dans mes bras. Je crois que j'aurais pu le garder des heures, en fait. Et puis, j'ai eu un mouvement qui a fait que sa tête est tombée en arrière. Et j'ai eu très peur, en fait. J'ai eu peur de lui faire mal, quoi. Parce que je crois qu'à ce moment-là, malgré ces 12 heures de travail, d'accouchement, on ne peut pas réaliser. On n'est pas du tout... on n'est pas capable de réaliser les choses, quoi. Et après, c'est vrai que les choses sont allées très vite. On nous a proposé, nous, en fait, Mathieu était à presque 8 mois de terme, donc on pouvait l'enterrer. Mais passer, en fait, de cette idée de berceau à l'idée d'une tombe, c'est quasiment impossible, enfin, en ce qui nous concerne. En fait, on n'avait pas non plus de soutien familial, donc c'était assez difficile. Et l'assistance publique nous a proposé de s'en charger. Donc on a...
Sans vous dire en quoi ça consistait?
Non.
Et de s'en charger.
Voilà, on s'en chargeait, donc on pensait que c'était fait décemment. Après coup, donc, quand je suis sortie de l'hôpital, enfin je dis toujours nous, parce que j'englobe mon mari, c'est vrai que c'est très difficile parce que Pour soi, on est mère, hein, ou père d'ailleurs, et puis dans le regard des autres, on n'est rien du tout, quoi. Et c'est quelque chose de terrible. Et puis les gens vous disent, bon, c'est pas grave, il y en aura une autre, vous êtes jeune, vous avez du courage. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'on aime son enfant, un point c'est tout, et on l'a perdu. Et en fait, c'est cette méconnaissance, enfin, ce refus, en fait, je pense, qui après est le plus dur à vivre et qui fait qu'on n'arrive pas à vivre du tout. Moi, je me suis accrochée, j'ai voulu qu'on reconnaisse mon enfant, ce qui a mis beaucoup de temps, et je crois que le livre a fait que là, j'y étais parvenue, donc je pouvais vivre en paix parce que j'avais tout fait pour lui. Parce que après, j'ai découvert que... Mais après juste avoir écrit le livre, j'ai découvert... Enfin, le manuscrit, avant que le livre ne paraisse, j'avais découvert comment étaient enterrés ses enfants. Et donc, à l'époque, ils étaient enterrés... Enfin, ils étaient mis dans des boîtes communes et enterrés avec les déchets hospitaliers. Et enterré à Thiers. Mais pas du tout comme on nous le disait, parce qu'en fait, quand j'ai téléphoné pour en savoir plus, on m'avait dit qu'il y avait un don du corps. Alors moi, je n'avais pas du tout l'impression d'avoir donné son corps. Donc déjà, ça sonnait très mal. J'ai eu l'idée de faire une plaque. J'ai voulu déposer une plaque à Thiers, ce qui est possible. Mais ça me semblait étrange, en fait, tout ce qu'il y avait autour de l'enterrement. Déjà à Thiers, les gens ne voulaient pas nous répondre. Et en fait, donc j'ai appris... plus tard, en lisant un article écrit par un psychologue, qu'en fait, ils étaient enterrés comme ça, quoi, comme des déchets. Et c'est très difficile, enfin, à admettre. Enfin, il y a quelque chose de... À la fois, on vous dit... Enfin, certains disent... Enfin, il y a des psychologues qui travaillent pour qu'on accepte d'avoir un enfant, dans certains cas. Enfin, de se dire, c'est vraiment mon enfant et qu'on le vive. Mais quand, à la fois, on vous l'enterre comme un déchet humain... Enfin, il y a quelque chose de complètement incohérent.
Corinne est au bout du fil. Bonjour Corinne.
Bonjour.
On vous écoute Corinne.
Donc en fait, je vous téléphonais pour témoigner. Il y a 6 ans comme aujourd'hui, j'ai fait un test de grossesse qui était positif. Donc j'attendais un petit garçon. Et puis fin décembre, le jour de Noël, le lendemain de Noël, j'ai plus senti du tout de mouvement dans le ventre. Et j'ai remué mon ventre, j'ai écouté ce témoignage, je suis très très émue, je suis désolée. Et donc, en fait, j'ai remué mon ventre, j'ai essayé de réveiller mon enfant, et puis mon enfant ne s'est pas réveillé. On est parti à la maternité, donc je tiens à signaler que j'étais sur Lille à l'époque.
Oui.
Donc on est parti à la maternité de Lille, effectivement, on n'a plus entendu le bruit de mouvement cardiaque. Hein. On est passé une échographie et Adrien était mort. Donc le lendemain, on a refait une échographie, on a confirmé le décès. Donc j'ai pris aussi la RU 486 et puis voilà, j'ai accouché 2 jours plus tard. Mmh. Et moi je témoigne surtout, au contraire des autres mamans qui ont témoigné, pour dire combien j'ai été aidée, mais vraiment très très aidée par l'équipe hospitalière.
Oui.
Donc en fait sur l'île, je pense que ce sont des pionniers pour ça, donc je voudrais citer leur nom à l'antenne si c'est possible.
Allez-y, allez-y.
Donc je voudrais remercier Anne-Sylvie Valla, qui est obstétricienne, Marise Dumoulin, qui est médecin, et Madeleine Loison, que je ne connais pas à l'époque, mais qui est aumônière à l'hôpital, que je ne connaissais pas à l'époque, pardon. Mm-hmm. Et donc j'ai accouché. Normalement, je voulais aussi insister sur remercier mon mari, sur la place du père, qui était présent à l'accouchement, qui a vu mon fils à la naissance. Moi, je n'ai pas réussi. Et puis, je l'ai vu le lendemain. J'avoue qu'au départ, quand on m'a proposé de voir mon enfant, j'avais un refus complet. Quand on m'a proposé une sépulture, refus complet. Quand je voyais Marise Dumoulin arriver, je disais, mais c'est pas possible, c'est un croque-mort, qu'est-ce qu'elle vient faire? Moi, c'est une naissance que j'attends et je vois un croque-mort. Et puis, un peu à la fois, elle m'a aidée à cheminer, elle m'a aidée à évoluer. Et je voulais dire l'importance que ça peut avoir, même si on le refuse au départ, de tenir son enfant dans ses bras. On tient un cadavre, mais on tient son enfant. Et c'est très, très important de voir son bébé, de se dire que c'était un beau bébé, c'était un... Et ça, c'est pour moi, c'est capital. Ensuite, Marie s'est occupée avec mon mari de toutes les formalités administratives. À Lille, il y a un cimetière pour bébés qui existe. Mm-hmm. Donc, mon enfant est enterré avec les autres petits qui sont morts. Donc, des interruptions volontaires, les interruptions, je veux dire, thérapeutiques, oui, bien sûr. Oui. Et donc, mon bébé est enterré à Lille. Et puis, depuis, nous sommes déménagés sur Toulouse. Donc là, bon, c'est un peu difficile à l'antenne. Je suis vraiment très émue, mais... Contrairement à ce qui peut paraître, je pense qu'on a quand même bien réussi à surmonter.
Est-ce que vous avez eu d'autres enfants après ?
Après, oui, j'ai vu d'autres enfants. J'avais une amie qui était enceinte en même temps que moi, bon, qui m'a beaucoup aidée aussi, et qui a osé venir avec son bébé chez moi. Ça a été très, très important.
Mais est-ce que vous-même, vous en avez eu?
Oui, alors vous... c'est ça, c'est à, là, oui. c'est à cela que je voulais arriver. Oui. Donc, 18 mois plus tard, j'étais enceinte de jumeaux. Et j'avoue que ça, ça m'a aussi énormément aidée. Mm-hmm. Donc, j'ai eu deux petits garçons. Donc, je suis rentrée, donc, aussi, je voulais vous parler de l'importance du suivi médical pour la grossesse suivante.
Oui, bien sûr.
Donc là, j'ai été hospitalisée à 5 mois, très très suivie par Marie Dumoulin et Sylvie Valla.
Oui.
Donc je suis restée hospitalisée parce que j'avais vraiment très peur et puis que j'avais un problème d'ouverture du col. Et puis donc j'ai eu des jumeaux, Victor et Romain, qui ont 5 ans bientôt. Mm-hmm. Après, j'ai déménagé sur Toulouse, j'ai fait la 3 fausses couches et puis j'ai un petit Nathan qui va avoir 1 an dans 1 mois, qui est en même temps que les grands en fait.
Oui, oui.
Et on a déclenché les accouchements à 37 semaines, pour ne plus passer, parce que de toute façon, je ne vivais plus. C'était impossible pour moi de surmonter le dernier mois. Mmh. Et voilà, donc je voulais aussi vous parler, j'ai entendu les dames qui témoignaient juste avant, de l'importance de la reconnaissance de l'enfant par les autres, d'avoir l'impression, quand on a accouché, on sent encore son bébé après. Je sais que quand on ampute quelqu'un, on parle de membre fantôme. Quand on a accouché, on a un bébé fantôme, on le sent bouger, on le sent toujours présent. Et il faut vraiment le reconnaître autrement. Il faut accepter qu'il soit sorti. Il faut accepter que donner la vie, c'est donner la mort. Et ça, c'est un long cheminement, très très long cheminement à faire.
Reconnaissance par les autres. Et là, Corinne, c'est vrai que vous nous remettez tous, autant que nous sommes en cause, bien évidemment. Et je vous remercie d'avoir pris votre téléphone et de témoigner sur cette antenne ce matin. Mais sur l'importance de l'équipe médicale et du soutien, du fait qu'on puisse parler des choses aussi, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui vous arrive. Et puis, on peut aussi être dans le déni. Sylvia Tabet, qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à ce que vous avez entendu et ce que vous avez vécu?
Alors,
à titre personnel,
ce que je tiens à dire quand même, c'est rappeler que c'est... Ce qui m'est arrivé il y a 11 ans. Mmh. Et qu'il y a 11 ans, les choses étaient encore embryonnaires, si j'ose dire, en termes de démarches d'accompagnement des hospitaliers. Et que moi, j'ai trouvé un langage médical très dur, très technique, des blouses blanches partout et aucune proposition de suivi psychologique à l'hôpital. Et à peine un conseil d'effectuer quelque chose en ville.
Oui, mais c'est aussi parce que des femmes comme vous écrivent, disent les choses et le font savoir. Et puis parce que par ailleurs, il y a des médecins, des politiques, etc. qui se battent.
Absolument.
Mais c'est grâce à des gens comme vous que les choses avancent.
Il faut faire du lobbying, il faut militer. Et il faut qu'il y ait des associations de femmes et d'hommes également, de parents qui se mobilisent et qui cherchent à faire évoluer les choses. Et à accompagner les parents et à essayer de conférer à la femme qui se trouve dans cette situation un statut légal. Parce qu'il y a l'acte civil à porter sur le livret de famille maintenant, au bout de 22 semaines. Oui. Mais que fait la femme de sa vie à titre personnel lorsqu'elle rentre chez elle? Il y a un isolement qui est colossal, il y a une culpabilité qui est énorme et qui la pousse à s'isoler. Et par ailleurs, elle est dans les faits incomprise de son entourage en général, puisqu'il n'y a pas eu mort. Souvent, il faut bien comprendre cela. Pour l'entourage, c'est une expérience ratée, mais il y aura effectivement,
c'est
comme le disait Corinne,
c'est une fausse couche, quoi.
Enfin, c'est une
même
fausse couche.
Et Dieu sait si pour
c'est
des femmes qui nous
couche.
Entendent, qui ont probablement fait des fausses couches ce matin et qui entendent ça, qui disent mais attendez, moi j'ai un souvenir très douloureux de ça. Mais c'est donc c'est pas pour minimiser la douleur de la fausse couche, mais c'est assimilé à ça.
C'est-à-dire
que c'est vrai que c'est pas la même chose de perdre un enfant quand on est enceinte de 5, de 6, de 7 mois et quand on est enceinte d'un mois. On est bien d'accord,
non.
Il y a tout un processus.
Même s'il y a un investissement affectif du premier jour de l'annonce, de la grossesse. Mais le corps souffre quand on accouche d'un enfant. Le corps entier est meurtri et effectivement, le ventre reste béant après.
Maryse, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Maryse.
Ça a été très dur pour moi d'entendre ces 3 témoignages. Je vais tout de suite raccrocher pour me redonner un petit peu de courage sur le témoignage de Corinne qui rend hommage à Maryse Dumoulin, que j'ai eu la chance, malgré mes 28 ans de longue solitude, j'appelle ça quand même une chance. J'aurais très bien pu ne pas la rencontrer, au moins au téléphone. Et les quelques 20 minutes que j'ai eues d'échanges téléphoniques avec elle ont, m'ont redonné un moral, une pêche, enfin une énergie. Enfin, je lui rends hommage, moi aussi. Parce
bien.
Que c'est, elle est très importante, cette dame. Hein, et il faudra reparler d'elle souvent.
On note son nom. Mais
voilà,
qu'est-ce qui vous était...
Marie du Moulin, ouais. CHU, Jeanne de Flandre à Lille. Ouais, voilà. Car sans elle, je n'aurais certainement pas fait la démarche qui m'a quand même coûté ces cinq derniers mois de demander le dossier médical de mon petit garçon Olivier, conçu à la fin de l'année 73 et mort, reconnu mort par moi seule en mars 74 et porté mort par moi toujours en faisant croire qu'il était vivant pendant deux autres mois, ce qui m'a paru être je sais pas moi comme une éternité, je sais pas,
attendez Maryse, pour qu'on comprenne
comprenne,
oui, vous avez porté c'est-à-dire vous sentez
il y a 28 ans
ouais.
j'ai sitôt mariée j'ai été enceinte d'un petit garçon que j'ai tout de suite senti comme étant un petit garçon. Personne ne me l'avait dit.
Oui.
Sauf... Alors, mon mari était totalement muet. Souffrant sans doute, mais muet, inexistant. Tout mon entourage, si ce n'est qu'au moment où, justement, j'ai eu ce saignement et la conscience, la sensation de la mort de mon enfant, mon ex-beau-père, puisque j'ai divorcé depuis, j'ai une vie extrêmement douloureuse, mon ex-beau-père a eu quand même le déclic de me tendre une main en me disant « Tu ne grossis pas, mais on va quand même trouver un nom, chercher un nom pour cet enfant que je sens être un garçon, moi aussi.
Mm-hmm. »
Et nous avons ensemble, mon ex-beau-père et moi, trouvé ce nom d'Olivier.
Mais voilà. Ce qui est incroyable, Marie, c'est pour ça que nous étions toutes étonnées autour de cette table, et j'imagine aussi les auditeurs qui sont en train de nous écouter, c'est de pouvoir, sans risquer soi-même sa vie, pouvoir porter un enfant mort pendant deux mois. Vous avez pris des risques absolument énormes.
J'ai été gangrénée, si on peut dire. La gangrène, je ne l'ai pas eue. J'ai psychiquement, je voudrais réagir sur ce qui a été dit par, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a dit qu'on n'avait pas, que celle qui s'est passée, c'est Sylvia, pour David, qui a dit qu'on n'avait pas le droit à l'inhumation. Si, on a ce droit. J'ai fait toute une recherche sur la législation.
Oui, mais le problème, c'est que...
Ce
oui, oui, bien sûr, on a le droit.
Depuis janvier 1974.
Vous avez tout...
On a le droit, les parents ont le droit à être informés par la clinique ou l'hôpital de leur droit, justement, à choisir entre... d'abord, un premier choix, est-ce qu'ils veulent bien laisser la clinique s'occuper de l'inhumation de l'enfant ? Et un deuxième choix, choisissez entre l'inhumation et l'incinération.
Mais Maryse, vous avez tout à fait raison et on n'a pas dit le contraire. Nous allons d'ailleurs en reparler dans quelques minutes avec un médecin que nous aurons en direct de Toulouse, Jacques Montagu. Le droit, il existe. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas toujours le droit. C'est toujours pareil. Et que quelquefois, en plus, même si on le connaît, et ça, moi, je connais, j'ai des exemples en tête, des femmes, même connaissant le droit, doivent se battre pour faire en sorte qu'il soit appliqué. Donc, il n'est pas forcément appliqué. C'est-à-dire qu'on vous met tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables pour que ça ne soit pas appliqué. Donc ça, c'est quand même d'importance. Mais Christine Sagnier, moi, je voudrais que vous nous disiez un mot de ce que vous pensez de ce témoignage de Maryse à l'instant sur le déni, c'est-à-dire le fait de dire « ça n'est pas possible que l'enfant que je porte, alors je suis là pour donner la vie, tout à coup, c'est la mort qui me tombe dessus ».
Moi, j'ai quand je l'ai vécu, j'avais l'impression, de toute façon, quand je pense à cette possibilité d'enterrement, de toute façon... Pour nous, même si on savait, on nous avait dit qu'on avait le droit à l'enterrer, mais c'était impossible, parce que notre esprit était complètement ailleurs. On ne peut pas imaginer. Enfin, j'ai l'impression que tout d'un coup, on est hors du monde. Mais vraiment, quoi. On a attendu avec, je ne sais pas, un espoir fou ce bébé. Et puis tout d'un coup, il n'est plus là et ça te paraît complètement incompréhensible.
On est hors du monde et j'ai l'impression, à avoir lu vos livres à toutes les deux, qu'on est aussi hors de soi. C'est-à-dire vous, Sylvia Tabé, oui. Il y a un moment où vous, carrément, d'ailleurs c'est déconcertant pour le lecteur, on se dit mais elle parle d'une autre femme, elle parle, tout à coup elle se met à parler à la troisième personne. Et en fait, et vous, sans le faire de la même manière, Christine Sagny, mais vous le faites aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment une autre.
Tout se passe. Moi, je sais que je n'arrivais pas à pleurer. Je souriais. Enfin, le personnel hospitalier était vraiment très, très gentil avec moi. Même si on n'a pas eu de psychologue à ce moment-là, mais j'en ai vu un après qui m'a énormément aidée. Mais j'étais ailleurs, quoi. Je voyais l'accouchement. À la limite, je comprenais pas tellement. Je comprenais très bien ce qui arrivait, mais c'était impossible, quoi. On a envie de se réveiller, en fait, se réveiller et dire ça y est, c'est fini, j'ai rêvé, quoi. Parce que tout allait bien, moi c'était au mois de juin, il faisait beau, tout allait très bien. Même si j'avais senti qu'il bougeait plus, c'était inimaginable. Parce que, en fait, j'ai l'impression aussi que dans notre société, on parle tellement du fait que toutes les grossesses sont belles. Et puis celle-là, elle ne l'est pas, quoi. Et vous, vous êtes mauvaise, vous n'êtes pas une femme normale, vous n'êtes pas une mère, on vous rejette complètement, alors que dans votre tête, vous êtes totalement mère.
Sylvia Tabé, c'est votre avis aussi ?
Bien sûr, et c'est pour cela que vous vous enfermez immédiatement. D'abord, on n'a pas vraiment le temps, en tout cas, on n'est pas en état de songer à ce que l'on devrait faire. À ce moment-là, lorsqu'on accouche, on est simplement en état de supporter un accouchement évidemment douloureux et évidemment atrocement triste. Et donc, il n'est pas question d'essayer de choisir la moins mauvaise des solutions. Enterrer, pas l'enterrer, le voir, ne pas le voir. On lutte contre soi-même et pour soi-même tout à la fois.
Sylvia Tabé et Christine Sagnier, vous êtes toutes les deux nos invitées, donc jusqu'à 11h dans Alter Ego. Nous parlons de ce sujet, on peut dire qu'il s'agit encore d'un sujet tabou qui est la mort d'un enfant avant même la naissance.
I go out most nights, attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar, and I know it won't be long. Before they play that song, do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound, make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal, but I know it works for me. And I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Conversation,
And there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are?
Vous êtes bien sur France Inter et c'est Alter Ego que vous écoutez. Jacques Montagu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Toulouse, vous êtes médecin, vous êtes biologiste de la reproduction, vous êtes également membre du Comité consultatif national d'éthique. La situation actuelle sur le plan légal, on va dire de non-reconnaissance, de non-statut du fœtus mort ou non viable, elle a quelque chose de kafkaïen, d'invivable, d'absurde.
Oui, tout à fait, bien qu'elle se soit améliorée.
Elle est en cours d'amélioration.
En novembre dernier, mais qui a un petit peu amélioré les choses, c'est vrai. Mais nous nous trouvons dans un. Nous trouvions jusqu'alors dans un véritable non-fœtus land juridique, c'est-à-dire que, dans le fond, jusqu'à l'âge de 6 mois, maintenant c'est 4 mois et demi, et mais sans vie. N'était pas reconnue en tant que telle, aucun acte civil, pour la mère aucun droit social, la grossesse n'a pas existé pour la société, et nous nous trouvions effectivement dans une situation inacceptable, avec un problème pour le deuil périnatal, pour le deuil de ces couples, et vis-à-vis duquel la société ne reconnaissait pas l'enfant.
Mais pourquoi est-ce que les choses sont si lentes à changer ? Puisqu'il y a eu déjà plusieurs tentatives sur le plan légal. On pense à par trois fois, je crois, Jean-François Mattei, actuel ministre de la Santé, a essayé justement de faire mentionner sur le livret de famille l'acte de naissance, le fait que figure cet enfant quelque part, même s'il n'est pas enterré. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à faire passer dans les mentalités ?
Alors, vous posez une question très difficile. En effet, parce que nous avons été nombreux à sensibiliser le Comité national d'éthique en 1998, sensibiliser le ministre à l'époque, M. Kouchner, sur ces problèmes-là, dans le cadre du réexamen de la loi de bioéthique. Et c'est vrai que la difficulté, c'est, je pense que dans l'idée de certains, il puisse y avoir des confusions, notamment en relation avec la loi 75 sur l'avortement. Or, c'est pas du tout le problème, c'est pas du tout la problématique qui est posée. Ici, il s'agit finalement d'accorder le respect dû aux plus petits d'entre nous. Et donc, que ce soit un enfant mort-né spontanément, une mort in utero, ou une interruption médicale de grossesse, eh bien, cette grossesse a existé, il faut intégrer dans l'histoire de la famille cet enfant, et curieusement, la société n'agit pas convenablement dans ce sens.
Alors, parce qu'il y aurait ce danger, pour dire les choses clairement, mais d'une suppression du droit à l'avortement, c'est ça qui pourrait empêcher les freiner les choses.
Non, je ne le pense pas. Vous savez, il y a souvent des confusions là-dessus. On a peur que le thème revienne. Alors bon, je crois que non. Il s'agit d'une problématique totalement différente. Dans le cas de l'avortement, je ne veux pas y insister, il s'agit finalement d'un conflit particulièrement difficile, cruel, entre la mère et son enfant. Tandis que là, il s'agit de reconnaître, d'aider les couples à faire, et leur famille, leur environnement, à faire le deuil de cet enfant. Alors, il faut reconnaître qu'il y a un virage sociétal qui va pousser le législateur à agir. Un virage sociétal qui fait que, finalement, les femmes préfèrent de plus en plus pouvoir accouché en milieu obstétrical, accompagné par une équipe obstétricale d'un enfant mort-né, plutôt que avorté, pardonnez-moi l'expression, d'un débris anatomique en milieu chirurgical. Vous voyez, les choses sont complètement en train de changer, et le législateur, bien, face à l'évolution des mœurs, finalement, et à l'évolution de la connaissance, pensons par exemple à la fœtopathologie, la possibilité d'autopsie, de savoir quelle est la cause exacte de la mort du fœtus, et bien tout ceci va les faire mieux exister, et sous cette pression, le législateur va devoir trancher. Et il ne faut pas évidemment s'arrêter à un simple arrêté ministériel comme celui du 30 novembre dernier, qui a sensiblement amélioré les choses. Je crois qu'il faut véritablement inscrire dans la loi la possibilité d'une inscription à l'état civil de l'existence de cet enfant, du décès de cet enfant. Mmh. Et deuxièmement, il faut finalement mettre en place une véritable traçabilité de la maternité qui doit prendre en charge ces corps et leur devenir dès l'instant où la famille ne les reprend pas, jusqu'à, on va dire, un jardin du souvenir des enfants naissant en vie dans les cimetières. Il faut que quand les couples reviennent, eh bien, ils puissent, pour faire leur deuil, savoir quel a été le devenir de ce corps et trouver un endroit pour se recueillir et faire leur deuil.
Et vous, docteur Montagu, vous avez proposé, je crois, au maire de Toulouse un jardin du souvenir dans les cimetières de Toulouse, dans la commune.
Oui,
dans
alors la ville de Toulouse. Il est maintenant créé. Et ceci, c'était à l'occasion du premier congrès sur le deuil périnatal. D'ailleurs, la symbolique est forte, qui avait été organisée par l'association des soins palliatifs de Midi-Pyrénées. Et je dois dire que à cette occasion-là, j'ai lancé un appel à toutes les maternités de France afin que soient mises en place des procédures visant à séparer le corps des autres débris opératoires s'ils venaient à être incinérés dans la prise en charge des maternités lorsque ces corps ne sont pas repris par la famille, et en même temps que toutes les communes de France créent un jardin du souvenir des enfants naissant vie, un carré dans lequel les parents puissent se recueillir et savent que finalement le corps est là, une façon finalement d'intégrer toute cette histoire dans leur famille, de faire le deuil pour eux-mêmes, mais aussi pour la fratrie. Et c'est très important pour les frères et sœurs.
Merci, docteur Montagu, d'être intervenu ce matin dans Alter Ego. Merci beaucoup. Au revoir. Sylvia Tabet, est-ce que le docteur Montagu parlait à l'instant de traces? Est-ce que ça, évidemment, ça n'estompe pas la douleur, mais est-ce qu'en tout cas, ça fait peut-être un peu taire une douleur trop vive?
Le mot traçabilité me paraît absolument fondamental. Ne serait-ce que parce qu'il pose matériellement, si j'ose dire, ce qui s'est passé, l'existence, on va dire entre guillemets, bien sûr, de cet enfant et du statut de parent, du papa et de la maman, et à terme, ou éventuellement, celui de frère et sœur pour la fratrie.
Toutes les deux, vous avez eu des enfants.
Oui, juste après. Sur la notion de deuil, je ne sais pas si on fait son deuil de tout dans la vie, est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça, des événements qui surviennent ou des personnes qui nous quittent dont on ne pourrait pas faire le deuil. Moi, je pose la question, je ne sais pas si on peut faire le deuil d'un fœtus. Simplement, en langage psychanalytique, faire le deuil, ça veut dire déplacer ses investissements. Donc ça, ce n'est pas inintéressant. Et si l'on en vient à parler des fratries, la question est souvent posée de savoir, lorsqu'un fœtus comme ça meurt, qu'advient-il de l'investissement ou du surinvestissement opéré sur les enfants qui viendraient après. Évidemment, on peut être soupçonné d'effectuer des transferts.
L'enfant de remplacement dont on parle souvent, mais bon.
Alors, sans doute y a-t-il une part de transfert et c'est bien comme ça. Et il ne faut pas nier cet aspect des choses aussi. L'enfant qui vient après est l'enfant qui naît après. Il a son nom, il a sa vie devant lui et son rapport propre à ses parents.
Mais est-ce qu'on lui parle du petit frère, par exemple, puisque c'était des garçons dans un cas comme dans l'autre? Est-ce que
j'ai une fille, ensuite un garçon, et j'ai parlé aux deux en même temps, notamment à l'occasion de l'écriture de mon livre. Et ils ont eu des réactions absolument extraordinaires. D'abord d'appropriation, c'était leur frère. Et puis aussi de besoin très urgent de se dissocier pourtant de ce frère.
L'un a dit « il n'était pas mon jumeau, j'espère ». Et l'autre a dit « je porte son prénom ». C'est-à-dire que j'ai donné pour deuxième prénom à mon fils le prénom de son premier frère qu'il n'a pas connu. Non pas pour le lui faire porter ce souvenir pesant d'une mort prématurée, mais de créer un lien et de lier cette fratrie.
Et vous, Christine Sagnier ?
Moi, j'en ai parlé immédiatement, en fait. C'est vrai que j'allais à la naissance de Renaud, donc, qui est né quasiment un an après donc, la mort de Mathieu. J'allais très, très mal. Enfin, je pense que la grossesse de Renaud, c'est très bien passé, entre guillemets. Je crois que j'ai retenu que les très bons moments, en fait, parce que c'était aussi très angoissant. Mais j'ai voulu accoucher dans le même hôpital, parce que justement, j'avais, enfin, Saint-Vincent-de-Paul, parce que j'avais été accompagnée, vraiment. Et quand je suis sortie de l'hôpital, tout est tombé, en fait. Là, tout ce que... Je pense que j'avais voulu un peu, quand même, oublier le chagrin, oublier la douleur d'avoir perdu Mathieu. Et puis là, la présence de Renaud faisait que l'absence était encore plus criante. Et j'en ai parlé immédiatement. Enfin, c'est vrai qu'il était tout bébé, et je lui en ai parlé, parce que je ne voulais surtout pas qu'il pense que j'étais triste à cause de lui. Je pense qu'il ressentait les choses, enfin, il les pressentait en tout cas. Et c'est vrai que vers 2-3 ans, il a commencé à en parler, et je me souviens très bien que la première fois qu'il m'en a parlé, il allait à la crèche, et dans la voiture, il m'avait dit « Mais tu es triste à cause de Mathieu, et tu es contente à cause de moi ». Et les choses pour lui, enfin, il continue à en parler, en fait, parce que nous, on est allés, en fait, un peu plus tard, on est allés au cimetière, même si, finalement, il n'y a pas tellement de tombes, mais, enfin, il n'y a pas de tombes, et on sait que Mathieu a été enterré, finalement, dans une sorte de terrain vague, mais on est allés voir, quand même, et Renaud aussi a retenu la plaque, il a retenu tout, mais il sait tout, il sait aussi comment ça s'est passé. Mais après mon livre, j'ai aussi cherché la photo de Mathieu, parce que je me disais qu'il devait bien y en avoir une à l'hôpital. Et quelqu'un m'a aidé, enfin un psychologue m'a aidé donc à la retrouver dans les laboratoires de l'hôpital. Et donc, ce n'est pas une belle photo, c'est une photo d'un bébé qui est déjà mort, qui est mort depuis 3 jours, et puis en plus qui a été dans mon ventre, dans le liquide amniotique, donc qui n'est pas beau. Mais j'avais retrouvé mon bébé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, cette photo. Et je l'ai proposé, enfin, je l'ai dit à Renaud, j'avais vu cette photo, donc il devait avoir 5 ans. Et je lui ai proposé, me disant, si moi, cette photo ne me fait pas peur, au contraire, cette photo me redonne mon enfant, en fait. On me l'avait arrachée, et là, j'ai la preuve, à la limite, je pourrais la montrer à tout le monde, même si on ne peut pas la montrer, cette photo-là. Mais Renaud l'a vue, et il m'a dit, oh, il n'est pas beau. Et puis c'est tout, quoi. Et puis maintenant, il sait très bien, il sait, quoi. Et je pense que ça, c'était très important, cette certitude aussi.
Bonjour Louise.
Oui, bonjour. Alors moi, contrairement à vos invités, je ne suis pas une mère, je suis plutôt une sœur d'un enfant qui n'a pas eu lieu comme ça. Et je voudrais surtout dire à toutes les femmes à qui ça arrive qu'il faut absolument nommer l'enfant. D'ailleurs, vos invités ont nommé leur fils. Il y a Mathieu, il y a David, il y a Olivier, bon. Et moi, je voudrais parler d'Elisabeth, ma petite sœur qui est arrivée et qui n'est pas née. Et en fait, l'enfant n'existe pas, mais il a existé 9 mois dans le ventre de sa mère. Elle lui a parlé, elle l'a aimé, et il a bougé. Et bon, moi, c'était un avortement thérapeutique. Donc, il y a eu une naissance, mais cette naissance n'a pas débouché sur la vie. Et c'est complètement contre nature. D'ailleurs, il n'y a pas de nom pour... Enfin, quand on perd son mari, on est veuve. Quand on perd ses parents, on est orphelin. Mais il n'y a pas de nom pour nommer justement ses parents qui ont perdu leur enfant. Mm-hmm. Et en plus, faire un deuil quand il n'y a pas de prénom, quand il n'y a pas de date de naissance. Bon, c'est arrivé à ma mère il y a 21 ans. Donc, on parlait pas du tout de photos. Personne ne lui a... Elle a appris le sexe de l'enfant vraiment il y a 5 ans. Et il n'y avait pas tout ce suivi thérapeutique, même psychologique, et pourtant c'était à Saint-Vincent-de-Paul, c'était quand même un grand hôpital. Et il faut absolument nommer ces enfants, parce que c'est important d'abord pour la mère, mais aussi pour
toute la famille,
parce que ça existe pour les frères et sœurs.
Louise, oui. Louise, vous êtes née après?
Non, moi je suis née, j'avais à peu près 11 mois quand c'est arrivé.
Ah d'accord.
Voilà. Et j'ai une petite sœur qui a mis quand même 4 ans et demi à venir après ça, parce que ma mère était... absolument, enfin ça ne marchait pas quoi, les grossesses ne prenaient pas. Mmh. Et puis je voudrais pour finir citer quelques mots de Marguerite Duras, qui a perdu un enfant, c'était au printemps 42, et qui a fait un texte dessus, et elle a écrit « La peau de mon ventre me collait au dos tellement j'étais vide, l'enfant était sorti, nous n'étions plus ensemble, il était mort d'une mort séparée. » Voilà.
Merci Louise de ce témoignage. Vous, Christine Sagnier, vous écrivez « Une partie de moi-même est morte avec Mathieu ».
Oui, mais je pense que maintenant, je ne le vis plus comme ça. C'était vraiment, enfin, quand je l'ai écrit, j'étais au bout d'un long, long cheminement, mais peut-être pas au bout, justement. Et je pense que maintenant, Mathieu repose, il a une place, définitivement. Et pour moi, j'ai deux enfants actuellement. J'en aurai un troisième bientôt, j'espère. Et il a sa place. Et maintenant, je n'hésite pas à dire, j'ai deux enfants, même si ça fait peur aux autres, même si certains se disent que je suis complètement folle. Mais j'ai deux enfants, parce que dans mon cœur, j'en ai deux.
Vous, Sylvia Tapé, quand on vous demande combien d'enfants vous avez, vous
dites quoi ? Je ne peux pas être aussi optimiste ou positive, on va dire, que Christine. Tout d'abord, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah. C'est l'émotion, je pense. Vous pouvez me reposer la question.
Quand je vous demandais quand vous dites le nombre d'enfants que vous avez, est-ce que vous dites...
J'ai essayé. Et j'ai vu... très vite constaté que ça mettait une ambiance épouvantable. Donc j'ai arrêté de dire que j'avais eu trois enfants ou bien que j'en avais deux lorsque ma fille est née. Non.
Mais j'ai pas pu faire ça. Au départ, c'était comme ça. Je ne pouvais pas. Parce que je sentais le regard des autres. Et puis maintenant, je pense que j'ai dépassé ça, vraiment. Et en fait, c'est quand je ne le dis pas que j'ai l'impression de le trahir, en fait, de trahir ce premier enfant. Et j'ai aucune raison de le trahir. Donc, pour moi, j'en ai deux. Vraiment. Quoi.
Et juste pour terminer sur le deuil, moi, je pense qu'une part de soi-même meurt avec l'enfant. Et elle meurt, par définition, à tout jamais. Et je pense qu'à titre personnel, je porterai toujours ce deuil qui est aussi une part de deuil de moi-même.
Il y a un avant et un après.
Oui, plus rien ne sera comme avant.
Pierre-Yves, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Pierre-Yves.
Oui, moi, je voulais juste dire en tant qu'homme ce que j'ai pu vivre par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à l'accouchement complet jusqu'au bout. C'est vrai que c'est après. C'est le fait d'aller, par exemple, à la mairie, de présenter l'enfant comme quelqu'un de né, hein, donc le déclarer, mettre son prénom dessus, et de passer juste à côté dans la même salle au niveau des décès. Ça, c'est très dur psychologiquement. Ça fait mal. On ne trouve pas ça normal, parce qu'on a des gens qui sont à côté, qui, eux, sont contents de déclarer leurs enfants. Mais vous savez que vous déclarez, mais vous avez déclaré aussi la mort. Mmh. Et c'est vrai que c'est très difficile d'en faire son deuil après. Et je sais que ma femme, par exemple, n'a jamais pu vraiment faire son deuil de ça, puisqu'elle n'a pas pu assister à tout le reste, puisqu'après, il a fallu aller voir les corbillards, mettre dans une petite caisse et l'emmener jusqu'au cimetière. C'est très dur. Alors, c'est vrai qu'on a eu une très bonne équipe médicale qui a été quand même, je le dis à mon avis, quand même extraordinaire. Mais j'ai pas eu de soutenu de mes frères ou de ma famille, par exemple. Et ça a été aussi très dur à vivre. Très, très dur à vivre. Je crois qu'aujourd'hui, après même 14 ans, c'est dur encore quand arrivent les dates anniversaires. Voilà.
Et est-ce qu'on peut, on dit quelquefois, et Christine et Sylviane vont nous faire part de leur expérience personnelle là-dessus, mais on dit quelquefois que la douleur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut partager avec quelqu'un, que la douleur ne rapproche pas, que bien au contraire, elle sépare. Est-ce qu'en tant que père, on ne se sent pas quelquefois un petit peu exclu, aussi mis de côté par rapport à cette douleur qui concerne une femme et un enfant ?
Ben je pense un petit peu qu'on est un peu exclu, puisqu'on n'a pas vécu... On l'a pas porté cet enfant, on l'a juste vécu en soutenant celle qu'on aimait. Mais c'est vrai que quelque part on se sent exclu, on se sent seul. Moi je me suis senti seul jusqu'à temps qu'on le mette sur terre, dans la terre. Et c'est vrai que même aujourd'hui j'en parle très peu parce que c'est vrai que c'est personnel et que j'ai l'impression que ça m'appartient qu'à moi en fait. Et c'est que ma douleur.
Merci Pierre-Yves de ce témoignage. Sylvia Tabay, comment est-ce qu'un couple peut vivre ça ?
Chacun le vit et puis le couple le vit. Je pense que voilà, ça n'a rien à voir. Je pense que l'homme aussi doit culpabiliser
beaucoup, beaucoup de l'absence de souffrance physique. C'est-à-dire que l'accouchement, c'est la femme qui le subit. Tandis que lui, il a les bras ballants, il ne peut qu'être là. Mm. Mais il n'endosse pas la part physique des douleurs et de cette aventure. Après, il faut que le couple sache parler. Il faut essayer d'amoindrir les failles, les moments d'isolement. Et il faut communiquer.
Christine Seignet.
Oui, je pense que c'est vrai. Il faut vraiment parler. Et c'est le plus difficile. Enfin, mais je pense qu'il y a toujours un moment où l'un va mieux, et puis après c'est l'autre, et puis finalement les choses s'équilibrent comme ça. Mais c'est très difficile parce qu'on ne se comprend pas.
Sylvie, bonjour.
Bonjour. Voilà, ben moi, mon expérience a été douloureuse aussi, comme toutes ces femmes qui ont témoigné. Moi, j'ai un garçon qui est aujourd'hui, mon fils est né à 15 ans, et le petit garçon donc que j'ai perdu, MC Johan, c'était au mois de mars 90, et c'était la dernière semaine où je devais mettre mon fils au monde le samedi. Et je suis allée donc le lundi de cette semaine-là chez le gynécologue en me disant « On mettra au monde votre petit bonhomme samedi ». Et j'ai perdu mon bébé la nuit de mercredi à jeudi. Et c'était un placenta accreta, donc qui a perforé l'utérus. Et chose à l'époque, en 90, je ne pense pas que c'était détectable. Et je ne sais pas aujourd'hui si en fin de compte, on peut protéger toutes ces femmes de ce placenta accreta qui nous perturbe la vie. Et je sais qu'aujourd'hui, je porte ces douleurs encore très fort. Et j'ai encore souvent envie de pleurer et de m'écrouler aussi, quoi, l'air de rien, c'est toujours douloureux. Et là, on avait les 70 ans donc, de ma belle-mère et tous les petits-enfants étaient autour d'elle. Et j'ai compté les petits-enfants. Je me suis aperçue que mon fils n'était pas là. Celui-là n'était pas là. Mmh. Voilà. Et en plus, j'avais emmené mon petit garçon à la maternelle donc, ce jeudi matin en lui disant « Je viens me chercher tout à l'heure. » Et ce jeudi-là, ça a été l'horreur. Et moi aussi, j'ai poussé mon ventre parce que je m'étais rendu compte que ce n'était pas normal. Donc, je suis allée voir une voisine qui m'a dit « Mais non, calme-toi. Tu sais, il dort peut-être. Ne t'inquiète pas. » Et j'étais suivie par une sage-femme qui, elle, venait me voir tous les jours parce que j'avais déjà une grossesse difficile avec mon fils aîné. Et quand elle est venue, elle m'a dit « Écoute, le cœur ne bat plus. Bon, ben, on va à la maternité. » Mon mari travaillait, en plus, il fallait qu'on le trouve. Enfin, ça a été très, très, très difficile, quoi. Mais je pense qu'effectivement, qu'avec les papas, mon mari est adorable, je l'adore. Mais on n'a pas communiqué, je pense, assez fort. Je crois qu'il a eu son chagrin de son côté. Et moi, du mien, hélas, je crois. Puis on a eu du mal à communiquer là-dessus, je pense.
Merci Sylvie de ce témoignage. Comme je voudrais vraiment vous remercier tous qui avez accepté de raconter des choses qui sont on ne peut plus intimes ce matin. Mais peut-être que ça peut d'abord faire réfléchir tout le monde, toucher ça certainement, parce que je pense qu'on pourrait l'être à moins. Christine Seignet, Sylvia Tabet, est-ce que l'écriture a été l'écriture chacune de vos livres, hein, Christine Seignet, Un ange est passé, qui est publié chez Microclimat. Sylvia Tabet, Je n'ai pas vu tes yeux, chez Hachette Littérature, sont deux superbes témoignages, vraiment. Est-ce que c'est rédempteur ? Est-ce que ça aide à mettre les choses à leur place, d'avoir cette chance de pouvoir écrire aussi bien que vous le faites, d'ailleurs, l'une et l'autre ?
En ce qui me concerne, oui, ça a été... je pense que ça a été la fin d'un long chagrin et d'un long chemin, en fait. Mmh. Et pouvoir écrire et écrire son nom... noir sur blanc, pour que tout le monde le sache d'une certaine manière, c'est ça, dire j'ai un enfant, et on aura beau dire non, si, il est bien là, et c'est cette reconnaissance dont j'avais besoin.
Sylvia Tabet.
Moi je dirais que c'est sinon une mise au monde, c'est une mise à jour, et c'est déjà beaucoup, et c'est comme les images que Boltanski a retrouvées des petits-enfants juifs déportés à Auschwitz, et qu'il expose aujourd'hui.
Merci à toutes les deux et merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci.